À l'école du bienheureux Charles de Foucault, 1858-1916, voici l'intervention du frère Marc Hayette, petit frère de Jésus à Lille, intervention enregistrée le 24 septembre 2016 lors de la journée organisée par la fraternité séculière Charles de Foucault à l'occasion du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucault. À l'école du bienheureux Charles de Foucault, voici l'intervention du frère Marc Hayette, petit frère de Jésus à Lille.
Sans doute que si vous connaissez un petit peu Charles de Foucault, vous savez qu'un des thèmes centraux de sa vie spirituelle et de sa vie après sa conversion, c'est Nazareth. Et ça, si on avait du temps, on pourrait développer. C'est très intéressant de voir, dans cette période où il cherchait, après sa conversion, il cherchait sa voie, avant de rentrer à la Trappe, l'abbé Huvelin l'a envoyé faire une retraite à Nazareth. Et plus tard, il dira, c'est là, en marchant dans les pas de Jésus de Nazareth, en marchant dans les rues que ses pieds avaient foulées, que j'ai senti, découvert, touché du doigt, la vie de Jésus à Nazareth. Donc c'était le déclic d'origine sur Nazareth. Mais cette vie de Nazareth, à cause de Nazareth, il va devenir trappiste. À cause de Nazareth, il va sortir de la Trappe, chaque fois en référence à Nazareth. Et il va sortir de la Trappe pour aller, c'est la seule période de sa vie où il est vraiment ermite, à Nazareth même, dans le couvent des Clarisses de Nazareth. À cause de Nazareth, il va sortir de cette situation d'ermite en Terre Sainte et accepter le sacerdoce. À cause de Nazareth, il va partir à Beni Abbès, et toujours à cause de Nazareth, il va se trouver au milieu des Touaregs à Tamanrasset. Je dis ça parce que il y a beaucoup de méditations très connues de Charles de Foucault, magnifiques méditations. La plupart datent de la période où il est ermite à Nazareth. Le Charles de Foucault dont je vais parler, c'est surtout le Charles de Foucault, on va dire, de la maturité, de la fin de sa vie, quand il est au milieu des Touaregs à Tamanrasset. Je crois que c'est important de signaler ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement ce chemin que Dieu a fait faire à Charles de Foucault. Au départ, il dit lui-même, à partir du moment où j'ai cru qu'il y avait un Dieu, j'ai su que je ne pouvais pas faire autrement que de ne vivre que pour lui. Donc il dit, ma vocation religieuse date de ce moment-là. Et pour lui, à ce moment-là, il a des textes où il dit, je voulais seulement vivre et ne respirer que pour Jésus. Et pour lui, vivre et ne respirer que pour Jésus, ça veut dire aller dans un monastère où là, je serai dans le calme, dans le silence, dans l'intimité avec Jésus. C'est très étonnant qu'après avoir quitté le monastère, il écrira à un ami trappiste qui est resté au monastère. J'ai ici tout le silence, toute la solitude, bien plus qu'à la Trappe, mais vous, vous avez la chance d'être dans la clôture, comme avec Jésus au fond d'un puits. Pour dire l'intimité, c'est la clôture. Ça, c'est sa première vision. Et au fond, le chemin que Dieu va lui faire faire, en cherchant à imiter Jésus de Nazareth, c'est de passer non pas de la séparation des hommes, derrière les murs d'un cloître, et d'être dans l'intimité avec Jésus là, mais à un autre lieu d'intimité, à passer là où Jésus a été, à Nazareth, c'est-à-dire au milieu des gens. Jésus va lui faire découvrir que pour vivre pour Jésus, il faut aller là où Jésus a été, dans le monde, et en particulier auprès de ceux qui sont le plus loin et le plus abandonnés. Pourquoi faire ? Pour leur porter le message évangélique. Le message évangélique, Dieu aime chaque homme, chaque personne humaine, quel qu'il soit, sans exception. On le trouve dans une lettre, très bien exprimée, dans une lettre à Monseigneur Caron. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette lettre. « Je suis un vieux pécheur qui, au lendemain de sa conversion, il y a près de 20 ans, a été attiré très puissamment par Jésus à mener sa vie cachée de Nazareth. Prêtre libre du diocèse de Viviers, mes dernières retraites de diaconat et de sacerdoce m'ont montré que cette vie de Nazareth, qui est ma vocation, il fallait la mener non pas dans la terre sainte tant aimée, il avait vécu 3 ans là, il aimait bien, et il avait le projet de se faire ordonner prêtre et de revenir comme ermite en terre sainte, donc c'est pendant ses retraites, il fallait mener cette vie non pas en terre sainte, mais parmi les âmes les plus malades, les brebis les plus perdues, les plus délaissées. Ce divin banquet dont je devenais le ministre, il fallait le présenter non aux frères, aux parents, aux riches voisins, mais aux plus boiteux, aux plus aveugles, aux plus pauvres, aux âmes les plus abandonnées, manquant le plus de prêtres. Donc ça c'est peut-être un premier point, aller sans peur dans le monde, à la rencontre du plus loin et du différent. Et il continue dans cette lettre, « Dans ma jeunesse, j'avais parcouru le Maroc et j'avais parcouru l'Algérie. Aucun pays ne me semblait plus abandonné que cela. Il dit, voilà, au Maroc, pays grand comme la France en surface, avec 10 millions d'habitants, aucun prêtre à l'intérieur. Dans le Sahara algérien, 7 ou 8 fois plus grand que la France, et plus peuplée qu'on ne croyait, une douzaine de missionnaires. Donc aucun peuple ne me semblant plus abandonné, je vais aller vers cela. Donc premier point, si vous avez fait attention, au fond, sortir des zones confortables, la terre sainte bien-aimée, pour aller vers celui qui est le plus loin. Il va approfondir ça, je vous l'ai dit, toute sa vie, jusqu'à un autre texte bien connu aussi, juste avant qu'il s'installe à Tamanrasset, où il écrit « La vie de mission ou la vie de désert, de retraite, c'est pas pour toi, toi tu es pour la vie de Nazareth, installe-toi là-dedans. » Ok, tu as un projet de créer des frères et des sœurs, s'ils arrivent c'est bien, mais en tout cas, sers-toi du règlement que tu as fait comme un directoire, comme une espèce de règle de vie, mais autrement, prends pour modèle la vie de Jésus à Nazareth. Alors il énumère, pas d'habit spécial comme Jésus à Nazareth, pas de grande propriété comme Jésus à Nazareth, pas à l'écart d'un village comme Jésus à Nazareth, même pas de grandes aumônes comme Jésus à Nazareth. Il se rend pas compte dans ce texte-là que, au fond, il va exactement à l'opposé de ce qu'il dit. En attendant que la congrégation puisse se fonder, une congrégation monastique qui aura la clôture, etc., etc., il dit lui-même dans ce texte, en attendant d'avoir un Nazareth qui est la clôture, vis Nazareth et sers-toi de ce règlement du Nazareth pour la clôture en toute chose du moment que ça ne contrarie pas la vie de Nazareth. Donc dans ce texte-là, il se contredit lui-même, on voit bien qu'il est poussé par autre chose. Et cette autre chose, ça va être vivre tout seul au milieu des gens de Nazareth. Et il finit cette méditation en disant « Ta vie de Nazareth peut se mener partout, mène-la au lieu le plus utile pour le prochain. » Et je crois que c'est un peu une phrase clé. Du coup, la mission de porter l'évangile au plus loin, ça s'élargit, pas seulement au fin fond du Sahara et chez les Touaregs, mais en tout lieu, là où nous sommes, là où les gens sont éloignés de nous, sont éloignés de l'évangile, pardon, chez nous, dans nos pays aujourd'hui. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que le Charles de la fin de sa vie réalise peu à peu que cette mission, c'est une mission de tous les baptisés, et pas seulement une mission de prêtres. Une mission de tout fidèle baptisé. Il a même des textes, je vais en lire un, où il dit que le baptisé ordinaire, il est au fond peut-être mieux équipé que le prêtre pour mener cette mission. Il y a beaucoup de textes à la fin de sa vie où il fait allusion à Priscille et Aquila, qui étaient des laïcs, un couple de laïcs, collaborateurs de saint Paul, dont on parle dans les Actes des Apôtres. Il y a une lettre sur laquelle je vais revenir plusieurs fois, si vous ne lisez qu'un texte de Charles de Foucault, lisez celui-là. C'est une lettre à Joseph Ours, un laïc lyonnais. C'est une lettre de 1912, donc 4 ans avant sa mort. « Comme vous le dites, les mondes ecclésiastiques et laïques s'ignorent tellement que le premier ne peut donner à l'autre. » 1912, on n'est pas loin des lois de séparation de l'Église et de l'État. C'est un peu le contexte dans lequel Charles a vécu. Hein. « Il est certain qu'à côté des prêtres, il faut des Priscilles et des Aquilas, voyant ce que le prêtre ne voit pas, pénétrant où il ne peut pénétrer, allant à ceux qui le fuient, évangélisant par un contact bienfaisant, une bonté débordante sur tous, une affection toujours prête à se donner. Un bon exemple attirant ceux qui tournent le dos au prêtre et lui sont hostiles de parti pris. » Un autre texte à Mgr Caron, un prêtre avec qui il a beaucoup correspondu. « Ce n'est pas seulement par des dons matériels qu'on doit travailler à la conversion des infidèles, ça c'est le langage de l'époque, je le laisse comme il était, c'est plus encore en provoquant l'établissement chez eux à titre de cultivateurs, de commerçants, d'artisans, de propriétaires fonciers, d'excellents chrétiens de toutes conditions, destinés à être un précieux appui pour les missionnaires, à attirer par l'exemple, la bonté, le contact, à attirer les infidèles à la foi et à être les noyaux autour duquel peuvent s'agréger un à un ceux qui se convertiront. » C'est intéressant dans ce texte de voir cette idée que la base de l'Église, c'est au fond les chrétiens auxquels les autres vont s'agréger. Donc, premier point, une mission de tous les baptisés, appelés à se tourner résolument vers ceux qui sont loin pour leur porter le message de l'amour. Un deuxième point, je ne fais pas un traité de la spiritualité de Charles de Foucault, je dis des choses qui me parlent à moi. J'espère qu'elles vous parleront aussi. Mais un deuxième point important pour moi, regarder le monde non pas comme le lieu de tous les dangers, mais comme le lieu où on peut rencontrer Dieu. Et je parle ici à partir de... C'est un autre défi que Charles a rencontré. Donc il voulait donner sa vie à Dieu, vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Tant qu'il était au monastère, il avait les moyens de cette intimité. Tant qu'il était ermite, il avait les moyens de cette intimité. Quand il arrive en Algérie et qu'il ouvre sa porte à tout le monde, puisqu'il dit qu'il veut ouvrir sa porte à tout le monde, il a des lettres où il dit « je suis dérangé 20 fois par heure ». Ça fait une fois toutes les 3 minutes, quoi. Et donc, comment je fais pour garder l'intimité avec le Seigneur? Et on a un petit texte qui nous... qui nous dit un peu la réponse qu'il a trouvée dans la prière. À un moment, c'est au moment où il est en premier voyage vers le sud avec l'armée et où petit à petit il rentre en contact avec les Touaregs. À ce moment-là, il pense qu'il s'installera peut-être chez les Touaregs et donc tout en marchant, il dit, tiens, où est-ce que je pourrais trouver un endroit pour m'installer? Et il note dans son carnet, un jour, il dit, là, il y a un endroit qui serait pas mal, mais je ne sais pas très bien où m'installer. Il y a une falaise, et donc si je m'installe en haut, ça a l'avantage, ce lieu-là a l'avantage d'être loin des hommes et du bruit, et de me procurer la solitude avec Dieu. C'est ça qu'il cherche. Si je m'installe en bas, c'est un lieu de passage. Eh bien, ça a l'avantage, lui, il le note d'abord comme ça, l'inconvénient d'être près des hommes. Et donc, au niveau de l'intimité avec Dieu, comment ça va jouer tout ça? Et alors, il fait comme il fait d'habitude. On a beaucoup de méditations écrites de lui. Je pense qu'il avait appris ça à la trappe, méditer l'évangile et par écrit. Et donc, il dit, voilà, que mon Seigneur daigne me dire qu'est-ce que je dois faire. Et la réponse qui lui vient dans la prière est lumineuse. Aujourd'hui et dans l'avenir, si tu le peux, établis-moi au premier endroit, en bas, là où les gens passent. Dans ces rochers, c'est le désert est plein de rochers, dans ces rochers semblables à ceux de Bethléem et de Nazareth, il faut toujours la référence à Nazareth, où tu as à la fois la perfection de mon imitation et celle de la charité. Pour ce qui est du recueillement, si ton problème c'est de trouver le recueillement, c'est l'amour qui doit te recueillir en moi intérieurement et non l'éloignement de tes enfants, de mes enfants. Vois-moi en eux et comme moi à Nazareth, vis près d'eux, perdu en Dieu. Vois-moi en eux et comme moi à Nazareth, vis près d'eux, perdu en Dieu. Je ne sais pas si vous avez fait attention au passage. Alors, c'est une méditation, donc sans doute on n'a plus maintenant que ce qui en a été tapé à la machine à l'époque. Mais c'est intéressant, il dit aujourd'hui et dans l'avenir, il a posé la question, où est-ce que je dois m'établir? La réponse de Jésus, c'est aujourd'hui et dans l'avenir, si tu le peux, établis-moi. Moi, Jésus qui parle. Ça veut dire si toi, tu t'établis quelque part, tu établis. Si le chrétien s'établit quelque part, il établit aussi Jésus là. Peut-être c'est une faute de frappe de la copiste, mais c'est une bienheureuse faute. Donc, pour ce qui est du recueillement, c'est l'amour qui doit te recueillir et non l'éloignement de mes enfants. En d'autres termes, ce n'est pas le lieu où je vis qui gêne ma relation avec Dieu. Ce qui peut gêner, c'est ma manière d'être dans ce lieu. Si j'y suis en aimant, j'y suis avec Dieu aussi sûrement. Différemment, mais aussi sûrement que si je suis à l'église ou à la chapelle. Le recueillement vient de l'amour. C'est ça que nous dit Charles. Vois-moi en eux, et comme moi à Nazareth, vis près d'eux, perdu en Dieu. Pour moi, c'est une magnifique expression de la vie chrétienne dans le monde. Une invitation à être dans le monde sans crainte, parce que Dieu nous y attend. Vois-moi en eux. Ça ne veut pas dire, comme on a dit quelquefois, ah, quand je vois mon prochain, je vois Dieu. Non, je vois mon prochain d'abord. Mais Dieu est toujours là où est mon prochain. Tout ça, c'est une invitation, et je crois que c'est une invitation qui est valable pour nous, à faire de tout événement une rencontre et une prière, une sorte de clin d'œil vers le ciel. Quand j'étais postulant, un des frères m'avait dit quelque chose comme ça, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, au fond, qui nous, pas seulement nous les frères, mais qui nous, tous chrétiens, devraient nous faire prier sans cesse. Il y a une chose qui me frappe beaucoup. On a été habitués, grâce à Dieu, on nous a dit, il faut essayer de lire l'évangile, lire la vie à la lumière de l'évangile, non? Mettre l'évangile dans notre vie. Charles de Foucault insiste d'ailleurs aussi beaucoup là-dessus. Je crois que l'inverse est vrai aussi. Il faut aussi apprendre à lire, à retrouver l'évangile dans la vie. Je vous donne un exemple. L'autre jour, j'étais dans le métro. Et puis devant moi, il y avait un monsieur qui avançait un peu en titubant et tout ça. J'ai vu ce monsieur, j'ai dit, oh là là, il va pas très bien, cet homme-là. Et je pense que j'ai même fait une petite prière dans mon cœur de dire, Seigneur, aide-le, parce que ça n'a pas l'air d'être la forme. Et puis je me suis mis à attendre le métro, et je me suis rendu compte que derrière moi, il y avait une dame qui avait pris le bras de ce monsieur et qui l'avait aidé à s'asseoir sur le banc dans la station de métro. Puis elle est venue attendre le métro. Et puis, 20 secondes après, ou comme ça, elle est revenue en arrière, et elle a ressorti de son sac deux yaourts qu'elle avait dans son sac, et qu'elle lui a donné, et qu'il a dévoré immédiatement, et elle est revenue attendre le métro, et elle est partie. Et je me suis dit, là, j'ai vu la bonne samaritaine, et elle m'a parlé de ces bons prêtres et religieux qui sont perdus dans leur prière, mais qui oublient de prendre soin de leur prochain. Mais bon, des choses comme ça, je pense qu'on en a plein dans la vie. Je dis souvent en rigolant, cette femme de l'évangile qui remue toute sa maison pour chercher la pièce qu'elle a perdue, moi je peux vous donner l'adresse, hein. le nombre de femmes de mon quartier qui cherchent le dernier billet de 5 euros pour finir le mois, et elle me dit que Dieu nous cherche comme ça. Je crois que c'est un peu une école, apprendre à retrouver l'évangile aussi dans les événements de notre vie et à faire de notre vie une prière. Et Charles reviendra souvent sur cette idée, il y a des très beaux textes de lui, sur cette idée que l'amour de Dieu et l'amour des hommes grandissent ensemble. Nous n'avons qu'un seul cœur, il dit même à un moment, autrefois on m'a appris qu'on devait avoir deux cœurs, un cœur de glace pour tout ce qui concerne les hommes et un cœur brûlant pour ce qui concerne l'amour de Dieu. Il dit non, nous n'avons qu'un seul cœur. Le même cœur avec lequel nous aimons Dieu est aussi celui avec lequel nous aimons les hommes. Si notre cœur s'échauffe, s'enflamme, s'attendrit dans la pratique de l'amour du prochain, par là même il se rend plus chaud, plus tendre pour aimer Dieu. Donc ça c'est un deuxième point, regarder le monde non pas comme le lieu de tous les dangers, mais comme le lieu où je peux rencontrer Dieu. Un troisième point, à l'écoute de Dieu qui parle, puisqu'il me parle, me laisser toucher et bousculer par la rencontre de l'autre. Si Dieu est là, au milieu du monde, et si je veux le rejoindre à partir de ma vie dans le monde, il faut que j'écoute ce qu'il me dit à travers la vie du monde et à travers la vie des gens. Et ça, il me semble que c'est caractéristique aussi du chemin de Charles de Foucault, vivre dans le monde les yeux ouverts et me laisser bousculer par la vie. Il y a un très beau texte de Sœur Madeleine, ça vous dit quelque chose certainement, Sœur Madeleine, la fondatrice des Petites Sœurs de Jésus. Assez vite à l'origine de sa fondation, elle avait écrit un petit texte, qui est un peu le texte de référence, et qui est, qu'elle intitule le bulletin vert, parce qu'il a dû être imprimé sur du papier vert. C'est un très très beau texte, et dans lequel elle s'adresse à une future petite sœur qui se présenterait, qui voudrait la suivre comme petite sœur. Et elle dit, comme religieuse, on t'a appris que tu dois passer dans le monde les yeux baissés et discrètement. Moi je te dis non. Ça, c'est pas une religieuse. Une religieuse, elle doit avoir les yeux ouverts et regarder autour d'elle. Et ça, je pense que c'est très... Ouais, c'est très juste, c'est très l'évangile, c'est très humain. C'est le reste qui n'était pas. Mais c'est assez remarquable dans l'histoire de Charles. Pourquoi il est sorti de la trappe? Il y a beaucoup d'éléments. Mais parmi les premiers éléments qui l'ont chatouillé et qui, au fond, l'ont fait bouger intérieurement, il raconte lui-même, il dit... Il est rentré à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, comme on l'a vu, et puis il avait demandé de pouvoir être envoyé après dans un prieuré très pauvre que Notre-Dame-des-Neiges venait de commencer à Akbès, en Syrie, c'est à la frontière entre Syrie et la Turquie, je crois que actuellement, je sais plus si c'est en Turquie, je crois maintenant. Un monastère très pauvre, que les moines avaient prévu pour le cas où ils auraient été expulsés dans le cadre des expulsions de la loi 1901, enfin des lois de séparation. Et alors il dit, il y a une huitaine de jours, on m'a envoyé prier un peu près d'un pauvre indigène catholique mort dans le hameau voisin. Quelle différence entre cette maison et nos habitations. Je soupire après Nazareth. Il a aussi d'autres réflexions où il se rend compte, par exemple, que le monastère, c'était évidemment des Occidentaux, c'était une période très troublée. C'était pas encore les massacres des Arméniens, mais c'est des massacres qui ont précédé l'extermination des Arméniens dans cette région. Et tout près de chez eux, il y a eu des exterminations. Il écrit, par exemple, « C'est douloureux d'être si bien avec ceux qui égorgent nos frères. Il vaudrait mieux souffrir avec eux que d'être protégé par les persécuteurs. » Parce qu'évidemment, ils avaient une garde pour protéger le monastère. Ou bien tout simplement son expérience du travail à la trappe. Faut pas oublier que lui, donc, il était militaire, il avait jamais travaillé de ses mains, je pense. Mais nous, notre travail à la trappe, c'est le travail des champs. Avant-hier a fini la moisson. Je pense qu'il y a quelques agriculteurs parmi nous, donc c'est quelqu'un qui est pas du tout agriculteur, c'est au siècle dernier, mais ça fait rien, écoutez quand même. C'est le travail des paysans, travail infiniment salutaire pour l'âme, tout en occupant le corps, il laisse le pouvoir de prier et de méditer. Mais ce travail, plus pénible qu'on ne le pense quand on ne l'a jamais fait, donne une telle solidarité, une telle compassion pour les pauvres, une telle charité pour les ouvriers et les laboureurs. On sent si bien le prix d'un morceau de pain quand on voit par soi-même combien il coûte de peine pour le produire. On a tant de solidarité pour tous ceux qui travaillent quand on partage ses travaux. C'est un peu ce genre de choses-là, rencontrer la vie réelle des gens. C'était un monastère vraiment très très... pauvre, c'était des cabanes encore, c'était une fondation très très pauvre, mais pour lui, Jean-François Six l'expliquait bien dans le film de ce matin, c'est une période où il veut l'excessivement pauvre et tout ce qui est excessif. Mais pour lui, c'est pas seulement une question d'excessif, c'est qu'il se rend compte au fond qu'il y a deux formes de pauvreté. Il y a aussi cette pauvreté des pauvres, que Jésus a choisi celle-là en se faisant homme de Nazareth, homme simple de Nazareth, et au fond c'est ça qui le pousse à sortir. Même chose quand il se trouve à Nazareth. Il a un texte où il écrit: la mère abbesse est très bonne pour moi, tout ce monde-là me fait des courbettes, on est très gentil avec moi, mais je me rends compte parfois qu'il y a des gens qui viennent au monastère et qu'on les renvoie un peu sèchement, et il dit: alors je ne peux plus rester là, parce que je ne peux plus supporter d'être bien traité, moi, alors qu'il y a des gens qui sont les frères de Jésus et les sœurs de Jésus, qui viennent et qui sont pas, et je sens que je suis faux si j'accepte de continuer. Et il dit: il faudrait que j'en parle, mais je ne peux pas en parler parce qu'elles sauront que les gens m'en ont parlé. C'est très intéressant d'entendre tout ça parce qu'on voit bien que, au fond, il voulait, et je crois que c'est une deuxième conversion dans la vie de Charles, dans son chemin spirituel, il voulait s'enfermer avec Jésus dans un monastère, et puis Jésus, petit à petit, lui fait rentrer les autres dans sa vie à lui. Ça rentre par sous cette forme-là des pauvres du village autour, ça rentre par ces gens-là qui vont voir les sœurs. Petit à petit, il va se laisser toucher par la situation des pauvres. Toucher à tel point qu'il va en sortir, quoi. Se laisser toucher par ce que Dieu me dit à travers les autres, à tel point que ça peut me faire bouger et réorienter ma vie. Je crois que c'est aussi un message pour nous. Comment est-ce que j'écoute les gens autour de moi, les gens de mon quartier, les gens de mon immeuble, les gens de mon village? Me laisser toucher par la souffrance en écoutant ce que Dieu me dit à travers la vie. Un autre point que je vais développer peut-être un peu plus, c'est annoncer l'évangile à travers une attitude de dialogue. Ok, être dans le monde où on y est, y voir la présence de Dieu, on essaye. Écouter ce que Dieu nous dit à travers les autres, ben on fait ce qu'on peut. Mais comme chrétien dans le monde, est-ce qu'on n'a pas quand même une tâche, un message à transmettre, l'évangile à annoncer? L'annonce de l'évangile, c'est une constante dans la vie de Charles de Foucault. Il y a un texte qui revient souvent sous sa plume, qui est un des textes dont il dit lui-même, c'est un texte que j'aime beaucoup, c'est le texte de Jésus: je suis venu apporter un feu sur la terre, et quel n'est pas mon feu intérieur à moi tant que ce feu ne brûle pas. Charles de Foucault, c'est un peu ça. Mais on voit qu'à la fin de sa vie, quand il est dans un autre contexte qui n'est pas un contexte chrétien, qui est le contexte des musulmans, il arrive avec plein d'idées. Il avait par exemple l'idée de faire une espèce de chapelet comme les chapelets musulmans, mais en gravant sur chaque grain le nom de Jésus, et puis en faisant dire: Mon Dieu, je vous aime, qu'un chapelet que tout le monde pourrait prendre, etc. Il se rend compte qu'il est dans un contexte où ça ne dit rien. Les gens ont une autre culture religieuse. Bon, c'est un étranger, il est là, c'est un colon, il est là, donc on l'accepte, peut-être parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais s'il veut annoncer l'évangile, il a un texte que je crois qu'on va y arriver après, mais ça fait rien, je peux le dire maintenant. Il y a un moment où il dit: je ne suis pas là pour annoncer l'évangile de façon directe. Ça ferait le même effet, il y a 100 ans, que si un musulman venait dans un village de Bretagne ou du Pays basque prêcher l'islamisme. Il y a 100 ans, on n'avait jamais entendu parler de musulmans, ça ne leur dirait rien du tout. Il faut trouver quelque chose qui va leur parler. Et c'est très intéressant de voir qu'au fond, toute la dernière partie de sa vie, ça va être une vie de dialogue. Ça a été mentionné ce matin. Il n'emploie pas le mot dialogue. C'est pas du tout, je crois qu'on ne trouve pas du tout ce mot-là dans son vocabulaire. On a dit que c'était un précurseur du dialogue islamo-chrétien. D'abord, en tout cas, pas au niveau des grandes idées. Et puis, c'est pas son mot. Mais il parle de conversation. Il a un texte qui, moi, me touche beaucoup. À un moment, donc vers la fin de sa vie, il a essayé de mettre en place une association de fidèles, l'Union Sodalité. Il y en a peut-être parmi vous qui en font partie. Et il cherchait un prêtre en France, puisque lui était en Algérie, pour s'occuper de cette union. Il écrit à ce fameux, à son, un père blanc qui était son directeur spirituel. Il dit: moi, je peux pas m'en occuper. Il dit: je me crois moins capable que la presque totalité des prêtres des démarches qu'il faudrait faire, n'ayant appris qu'à prier solitaire, à me taire, à vivre avec des livres, et tout au plus à causer familièrement en tête à tête avec des pauvres. C'est un texte du 11 juin 1916, donc 6 mois avant sa mort. Et je trouve ça génial, je dois dire. Qu'est-ce qu'il a appris à faire? D'abord, il a appris des choses, et c'est un apprentissage. Prier solitaire, ben oui, il n'a jamais eu d'autres avec lui. Me taire, bon, il parlait pas mal aussi, il semble. Vivre avec des livres, c'est la fin de son travail sur la langue des Touaregs. Et tout au plus, un peu comme si c'était la plus belle chose qu'il a apprise, à causer familièrement en tête à tête avec des pauvres. Je dois dire, c'est une chose qu'on apprend aussi. Et donc voilà ce que c'est pour lui, annoncer l'évangile, c'est entrer en dialogue avec l'autre. Et entrer en dialogue, c'est pas rencontrer l'autre pour placer ma marchandise, si j'ose dire, en parlant de l'évangile, mais respecter l'autre dans son chemin et écouter ce qu'il a à me dire. Je cite encore cette lettre à Joseph Fourche dont je vous ai parlé tout à l'heure. On y retrouve pour moi un peu le condensé de la vision de Charles de Foucault de la mission. Il dit « Tout chrétien doit donc être apôtre » et « doit » c'est souligné deux fois. « Tout chrétien doit être apôtre ». Ce n'est pas un conseil, c'est un commandement, le commandement de la charité. Être apôtre par quels moyens? Par ce que Dieu met à sa disposition. Les prêtres, il y en a un certain nombre parmi nous, ont leurs supérieurs qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Les laïcs doivent être apôtres envers tous ceux qu'ils peuvent atteindre. Leurs proches et leurs amis d'abord, mais pas eux seuls. La charité n'a rien d'étroit et elle embrasse tous ceux qu'embrasse le cœur de Jésus. Être apôtre par quels moyens? Par les meilleurs, ça c'est Foucault, il faut toujours le meilleur. Par les meilleurs, suivant ceux avec qui ils s'adressent. Avec tout le monde, avec tous ceux avec qui ils sont en rapport, par la bonté, par la tendresse, par l'affection fraternelle, par l'exemple de la vertu, par l'humilité, par la douceur, qui sont toujours attrayantes et si chrétiennes. Avec certains, sans jamais leur dire un mot de Dieu, ni de la religion. En patientant comme Dieu patiente, en étant bon comme Dieu est bon, en aimant, en étant un tendre frère et en priant. Avec d'autres, en parlant de Dieu dans la mesure qu'ils peuvent le porter. Et puis dès qu'ils sont à la pensée de chercher la vérité par l'étude de la religion catholique, alors en les mettant en rapport avec un prêtre très bien choisi et capable de leur faire du bien. Mais surtout, voir en tout humain un frère ou une sœur. Vous êtes tous frères, vous avez un seul Père qui est aux cieux. Voir en tout humain un enfant de Dieu, une âme rachetée par le sang de Jésus, une âme aimée de Jésus, une personne que nous devons aimer comme nous-mêmes et au salut de laquelle nous devons travailler. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais quand même, être apôtre sans jamais parler de Dieu, faut le faire, quoi. Bon, je pense qu'on le fait tous, mais c'est intéressant qu'il a vu ça bien à l'avance, dans un milieu où parler de Dieu ouvertement, ça pouvait pas être entendu. C'est des mots qui ne parlaient pas. Ça, c'est le Charles de la dernière période de sa vie. Au milieu des Touaregs, qui ont leur culture, qui ont leur foi, il est arrivé à cette certitude qu'il faut d'abord respecter ses voisins dans leurs convictions. Cheminer ensemble à partir des valeurs communes, quand il dit, avec d'autres en parlant de Dieu, dans la mesure où ils sont capables de le porter. Ça veut dire en parlant des vertus, on disait autrefois. Et lui dit de la religion naturelle, en parlant de Dieu, en parlant de la justice, en parlant de l'amour, du prochain, etc. Je crois que ce qu'il a découvert, c'est au fond que ce qui parle le plus de l'évangile, c'est la vie selon l'évangile. C'est la vie évangélique qui parle de l'évangile. Le dialogue, c'est d'abord le dialogue de l'amour offert à tous. Surtout, voir en tout humain un frère. Avant que je puisse leur parler de Dieu, les gens m'attendent sur mon comportement. Et ils me jugeront sur mon comportement, si je suis cohérent, comme c'était dit ce matin dans le film, ou pas. Et peut-être aussi qu'avant que je puisse leur parler de Dieu, les gens attendent que je les écoute, et que je les écoute me parler d'eux-mêmes. J'ai dit que Charles n'a pas fait une théorie du dialogue, mais on peut repérer chez lui quelques attitudes qui sont pour lui des attitudes du dialogue. Je vais en noter 4 ou 5. La première, c'est ce qu'il appelle « bannir l'esprit militant ». C'est dans cette même lettre à Joseph Ours. Il dit « bannir loin de nous l'esprit militant. Je vous envoie comme un agneau parmi les loups, dit Jésus. Combien il y a loin entre cette manière de faire et de parler de Jésus, la manière qui est la manière de Jésus, et l'esprit militant de ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui sont des mauvais chrétiens et qui voient dans les autres des ennemis qu'il faut combattre, au lieu de voir des frères malades qu'il faut soigner, des blessés étendus sur le chemin dont il faut être les bons samaritains. N'être militant avec personne. Jésus nous a appris à aller comme des agneaux parmi les loups, non à parler avec aigreur, avec rudesse, à injurier, à prendre les armes. Bannir l'esprit militant, ça ne veut pas dire ne pas s'engager, mais ça veut dire refuser de vouloir convaincre l'autre à tout prix. Refuser le prosélytisme, en d'autres mots. Refuser de se placer au niveau des batailles d'idées. Parler avec aigreur, rudesse, injurier, prendre les armes, il dit. Ça veut dire essayer de comprendre l'autre, ce qui peut faire obstacle en lui, ce qui le rend malade ou blessé, comme dit Charles. C'est une sacrée école, je trouve. Donc bannir le prosélytisme, bannir l'esprit militant, pour garder les mots de Charles. Un deuxième point, reconnaître la valeur de l'autre et la part de vérité qu'il porte en lui. C'est une deuxième attitude fondamentale du dialogue. Charles en parle dans les textes que je vais citer à propos de l'islam parce qu'il est un monde musulman. Mais c'est valable aussi pour nous dans le milieu, quelques milieux où nous nous trouvons. Je vous cite deux petits passages de lettres qu'il a écrites à son ami Henri de Castries. Henri de Castries était un militaire, et un certain nombre des militaires qui étaient en Algérie ont fait tout un travail d'études du pays, de la langue, etc. Et lui a fait tout un travail sur l'islam. Charles, je crois, l'avait connu à l'école militaire. Et il fait un livre sur l'islam, il l'envoie à Charles. Charles reçoit ce livre et immédiatement, il lui répond: L'islamisme est extrêmement séduisant. Il m'a séduit à l'excès. Ce matin, on disait qu'au début, il disait lui-même, je voulais mélanger le Coran avec mes prières. Mais la religion catholique est vraie, c'est facile à prouver, donc toute autre est fausse. Voilà, on dirait peut-être plus les choses comme ça aujourd'hui, mais il le disait à cette époque comme ça. C'est facile à prouver. Bon, mais la religion catholique est vraie, c'est facile à prouver, donc toute autre est fausse. Or, là où il y a erreur, il y a toujours des maux, il y a toujours du mal. Parenthèse. Quoique, les vérités qui peuvent subsister au milieu des erreurs sont un bien et restent capables de produire des grands et des vrais biens, ce qui arrive pour l'islam. Je reviens là-dessus, je passe au deuxième texte, à la même personne, Henri de Castries, un mois après. Est-il étonnant que les musulmans se fassent de si fausses idées de notre religion quand presque tout le monde parmi nous en a de si fantastiques de leurs croyances? Vous avez admirablement dépeint dans votre livre cette extrême simplicité de mœurs qui est si belle et cette grande décence. Je ne puis m'empêcher de le redire, j'ai été édifié par votre livre, y trouvant une foule d'exemples à imiter, musulmans, y compris le vôtre. Je trouve deux, trois choses très intéressantes dans ces textes-là. D'abord, cette idée qu'il y a une part de vérité dans l'autre, dans le cas présent, dans les musulmans. Et donc, si quelqu'un s'est accroché à une part de vérité, mais rendons grâce à Dieu qu'il ne la lâche pas, pourquoi je vais vouloir lui faire lâcher la part de vérité qu'il a accrochée? Rendons grâce à Dieu qu'il ne la lâche pas, cette part de vérité, et la reconnaître. Ensuite, cette deuxième chose qu'il dit, les vérités qui peuvent subsister au milieu des erreurs sont un bien et restent capables de produire des grands et des vrais biens. Croire que l'autre, s'il a une part de vérité, même si j'aimerais qu'il en sache beaucoup plus, cette part de vérité en lui est un bien et elle va produire du bien. Et ça, je trouve, comme attitude de dialogue et comme attitude de rencontre de l'autre, c'est aussi quelque chose de fondamental. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc il y a un mois qui sépare les deux textes que je vous ai lus. Donc dans le premier, il dit la religion catholique, c'est la vraie, etc., etc. Mais là où il y a de la vérité, ça va quand même produire du fruit. La deuxième, il a lu le livre et il dit ça, c'était quand même intéressant tout ce que vous avez pu montrer de positif sur la religion des musulmans. Et j'ai trouvé des exemples. C'est pas étonnant qu'on ait de tels qu'ils aient eux des idées bizarres sur notre religion quand nous on en a des si bizarres sur la leur. Il reconnaît implicitement qu'il avait aussi des idées bizarres sur leur religion. Et il va jusqu'à dire qu'il y a des exemples à imiter, même dans les musulmans dont Henri de Castries parle dans son livre. Il revient plusieurs fois, ce n'est pas un texte isolé, il revient plusieurs fois là-dessus en disant la conversion des musulmans, par exemple, est particulièrement difficile. Leur religion n'est point déraisonnable comme celle des idolâtres. Il était aussi en contact avec des gens de religion animiste traditionnelle, on va dire. Avec des erreurs, elle contient des vérités. Il revient souvent là-dessus. Donc, attitude fondamentale du dialogue, croire que l'autre est sincère, croire qu'il peut chercher sincèrement avec la lumière dont il dispose, ne pas douter de sa bonne foi. Ne pas douter de sa capacité à s'ouvrir et peut-être s'enrichir de ses valeurs. Et ça, c'est un autre point, entrer dans une vraie relation de réciprocité. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire dans la vie de Charles de Foucauld, c'est l'histoire d'une femme touareg qui s'appelle Taraïchat. Charles de Foucauld vivait à Beni Abbès, sa première insertion, et puis La Périne, son ancien collègue, général, puis il n'était pas général à l'époque, il devait être colonel, était en charge de l'armée et c'était encore en pleine période coloniale, donc ils allaient vers le sud. Et il a bien senti, c'est un homme qui voulait faire une colonisation par la fraternisation, et il a bien senti que chez Charles de Foucauld, il pouvait avoir un allié. Donc c'est lui qui l'a poussé un peu à aller voir du côté des Touaregs. Et pour l'attirer, il lui a raconté une histoire. Lors du massacre de la mission Flatters, donc 30 ou 40 ans avant, une femme Touareg de famille noble a eu une très belle attitude. Elle s'est opposée à ce qu'on achève les blessés, elle les a soignés, elle les a recueillis chez elle. Elle a refusé l'entrée de sa maison, ça veut dire de sa tente, à Atissi, celui qui avait tendu une embuscade à l'armée, qui voulait les achever lui-même. Et après sa guérison, elle les a fait rapatrier à Tripoli. Elle a maintenant 40 à 43 ans. Elle passe pour avoir beaucoup d'influence. Elle est renommée pour sa charité. Il écrit tout ça sur son journal de bord. Alors il continue. Cette âme n'est-elle pas prête pour l'évangile? N'y aurait-il pas lieu de lui écrire simplement pour lui dire que la charité qu'elle pratique sans cesse est celle avec laquelle elle a recueilli, soigné, défendu, rapatrié les blessés de la mission française il y a 22 ans, sont connues de nous tous et nous remplissent de joie et de reconnaissance envers Dieu? Donc il écrit, n'y aurait-il pas lieu de lui écrire? Du coup, il se met à écrire. Dieu a dit, le premier commandement de la religion, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Le deuxième, c'est d'aimer tous les humains sans exception comme soi-même. Dieu a dit aussi, vous êtes tous frères, vous avez tous un même Père, Dieu. Et encore, le bien et le mal que vous faites aux hommes, vous le faites à Dieu. Admirant et rendant grâce à Dieu de vous voir si bien pratiquer la charité envers les hommes, qui est le second devoir, le premier étant l'amour de Dieu, nous vous écrivons cette lettre pour vous dire que chez les chrétiens, où des centaines de milliers d'âmes, hommes et femmes, renonçant au mariage et aux biens terrestres, consacrent leur vie à prier et à méditer la parole de Dieu et à pratiquer la bienfaisance, tous les religieux et religieuses qui entendront parler de vous, cette dame musulmane, Tarichat, vous béniront, loueront Dieu de vos vertus et le prieront de vous combler de grâce en ce monde et de gloire dans le ciel. Nous vous écrivons aussi pour vous demander très instamment de prier pour nous. Certains que Dieu, qui a mis dans votre cœur une si ferme volonté de l'aimer et de le servir, écoute les prières que vous lui adressez. Nous vous supplions de le prier pour nous et pour tous les hommes, afin que nous l'aimions et lui obéissions de toute notre âme. À lui, gloire, bénédiction, honneur, louange, maintenant et toujours. Amen. Et il continue, je vais envoyer copie de ce projet de lettre à Monseigneur Guérin, l'évêque du Sahara, en lui demandant s'il veut écrire lui-même ou s'il veut que j'écrive, et en lui offrant, si les relations se nouent avec cette dame, et si je reste seul, et si à ce moment-là ça paraît la volonté de Dieu, d'aller faire une visite pédestrement à cette dame. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est il y a un siècle, un peu plus, un prêtre catholique qui écrit à une femme musulmane pour lui dire, je vous en prie, priez pour nous. Parce que quand je vois comment vous pratiquez la charité, je suis sûr que Dieu exauce vos prières. C'est pas rien comme attitude de dialogue avec l'autre et de réciprocité aussi, de rentrer dans une vraie relation de réciprocité. C'est pas rien de reconnaître profondément le bien qui est dans l'autre, et c'est pas rien de lui dire aussi. Alors je me répète, c'est dans le contexte de Charles, lui s'adresse à des musulmans, cette histoire c'est des musulmans, mais je crois que ça vaut aussi là où nous vivons. Et au fond, dans la dernière partie de sa vie, il est rentré dans ce type de relation. Rentré en conversation avec les gens, comme il dit. Il a passé énormément de gens et petit à petit, il a eu quelques amis. Il y a un texte où il dit, j'ai ici au moins quatre amis sur qui je peux compter entièrement. Comment est-ce qu'ils se sont liés à moi? Comme nous nous lions entre nous, exactement pareil. Je ne leur ai fait aucun cadeau. Ils ont compris qu'ils avaient en moi un ami, que je leur étais dévoué, qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Ils m'ont rendu l'appareil de ce que j'étais pour eux. Il donne les noms de ces quatre personnes. Il y en a d'autres que j'aime et que j'estime. Mais ces quatre-là, je puis leur demander n'importe quel conseil, renseignement ou service. Je suis sûr qu'ils me le rendront de leur mieux. Intéressant de savoir qu'il note qu'il peut leur demander renseignement, conseil et service, ce qui veut dire qu'il le fait. Et qu'il est rentré dans une vraie relation de réciprocité. J'ai envie de vous raconter une histoire un peu personnelle, mais qui m'a, moi, beaucoup touché. La personne qui m'a, pour dire, je pense qu'on vit tous des choses comme ça dans notre vie, mais c'est intéressant d'en prendre conscience, peut-être de les partager et de rendre grâce à Dieu aussi. La personne qui m'a le mieux parlé du pardon dans ma vie, c'est une personne que j'ai visitée pendant longtemps à la prison, qui est un grand ami à moi, qui est devenu un grand ami à moi. Et alors, à la prison, quand vous allez dans les prisons, dans certaines prisons, le parloir, c'est juste un petit box où vous êtes en tête à tête, mais d'autres fois, c'est une salle où il y a plusieurs familles. Et donc là, c'était dans une salle comme ça, et il y avait un autre détenu qui était son copain, donc il me l'a présenté, on a parlé un petit peu. Et puis la fois d'après, il me dit, tu sais, l'autre, là, il va sortir bientôt, et alors il m'a juré que quand il sera sorti, il va revenir, et il va organiser mon évasion. Alors, il me dit, Alex, il s'appelle mon ami. Alors, il dit, mais arrête de raconter des bêtises, tu sais bien que c'est pas possible. Non, non, je te le jure, la tête de ma mère, comme on dit aujourd'hui, je te le jure, je vais venir. Il dit, ne jure pas. Tu sais ce qui se passe entre nous si tu as donné ta parole et que tu la respectes pas. Ne jure pas. Non, non, je te le jure, etc. Quelque temps après, l'autre, il est sorti en permission. Il n'est pas rentré de permission. Donc il n'est pas non plus venu organiser l'évasion de mon ami. Et donc la fois d'après où je vais le visiter, il me raconte ça, quoi. Ce qui l'embêtait, ce n'était pas tellement qu'il ne soit pas venu le sauver, mais c'est de dire, maintenant, je fais quoi? Il a donné sa parole, il ne l'a pas respecté, je fais quoi? Alors, moi, je lui dis, mais tu sais, ne te casse pas la tête, tu sais bien qu'en prison, c'est facile de parler, mais dehors, en plus, il n'est pas rentré de Perm, donc comment il va... Et alors, il me dit, oui, je te comprends, tu veux me parler de pardon? Je n'avais pas du tout mentionné le pardon. Il dit, tu sais, si je veux lui pardonner, il faut que je change toutes mes lois intérieures. Mon maître des novices, il ne m'a pas parlé comme ça du pardon. Hein. C'est une merveille de définition du pardon par quelqu'un que je visite à la prison. Quoi. Pour dire, rentrer dans une relation de réciprocité où je sais aussi recevoir le bien qui est dans l'autre. On pourrait ajouter un autre point de cette manière d'être au monde. Au fond, le dernier mot appartient à Dieu. C'est une autre façon de dire bannir l'esprit militant. C'est surtout une autre façon de dire laissons aussi l'esprit travailler dans le cœur des personnes et croyons que les personnes peuvent aussi avoir une bonne disponibilité à se laisser travailler. C'est une phrase qui est connue, qui est rapportée de Charles de Foucault, sur Charles de Foucault. C'est un docteur militaire qui est passé dans le coin et qui dit « Un jour, il m'a invité à dîner avec le maréchal des logis Tessère, qui était venu pour mettre en chantier un fort. Au milieu du repas, j'ai posé au père de Foucault la question suivante. « Croyez-vous que les Touaregs vont se convertir et que vous obtiendrez des résultats qui vont vous payer de vos sacrifices ?» Ah bah ouais. Alors, mon cher docteur, m'a-t-il dit, je suis ici non pas pour convertir les Touaregs, mais pour essayer de les comprendre et de les améliorer. Je crois que les améliorer, ça veut dire les amener à rendre le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et puis, je désire que les Touaregs aient place au paradis. Je suis certain que le bon Dieu accueillera au ciel ceux qui furent bons et honnêtes, sans qu'il soit besoin d'être catholique romain. Vous êtes protestant. Tessère, donc cet officier qui était là, est incrédule. Les Touaregs sont musulmans. Je suis persuadé que Dieu nous recevra tous si nous le méritons. Et je cherche à améliorer les Touaregs pour qu'ils méritent le paradis. Je crois que ce n'est pas du relativisme. C'est seulement faire confiance au travail de l'esprit dans le cœur de chacun. C'est assez étonnant de voir qu'à la fin de sa vie, c'est quelque chose qui certainement a imprégné Charles de Foucault, cette dimension-là. Il a écrit, donc vous avez entendu parler ce matin, la sodalité, donc la seule chose qu'il a vraiment fondée, l'union, le vrai nom d'origine donné par Charles de Foucault, c'est l'union de frères et de sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Et il a écrit ce qu'on appelle le directoire. L'objectif de cette association de prière, comme il en existait beaucoup à son époque, il dit l'objectif c'est triple. Le premier, c'est de revenir à l'Évangile, devenir soi-même un homme ou une femme de l'Évangile, mettre l'Évangile dans notre vie. Et il a des textes magnifiques où il dit, il faut revenir sans cesse à l'Évangile, que ça nous imprègne, il faut que ça fasse en nous comme la goutte d'eau qui tombe toujours à la même place, et à la fin, même la pierre la plus dure, elle finit par être usée par cette goutte qui tombe. Donc premier point, revenir à l'Évangile. Deuxième point, l'amour de l'Eucharistie. Parce que c'est au fond Jésus qui est là et qui donne sa vie. Et s'il y a l'Eucharistie, il y a aussi des chrétiens. Je vous avais fait remarquer tout à l'heure, quand tu t'établis là, tu m'établis moi aussi. Donc si l'Eucharistie est là, il y a aussi des chrétiens qui vivent de l'Eucharistie, vivre de l'Eucharistie. Et le troisième point, travailler, comme on disait à l'époque, à la conversion des infidèles. Alors, ce texte qu'il a écrit pour ce groupe s'appelle le Directoire. Même Jean-François Six, qui en parle souvent comme d'un texte fondamental, il dit, c'est sûr que quand on le lit aujourd'hui, il faut secouer la poussière, parce que on parle tout le temps des infidèles, les infidèles de nos colonies, ceux des colonies des autres, etc., etc., donc c'est assez... Mais il y a des perles là-dedans, et une de ces perles, c'est au fond, il invite tout le monde à ce qu'on appellerait aujourd'hui une sobriété de vie, dans la manière dont on utilise l'argent, il rentre dans des détails très très concrets, c'est du Foucault ça, la manière de meubler la maison, la manière de manger, tout ça, en se posant la question, comment vivait Jésus? Un des premiers versets de ce directoire, c'est « Chaque membre se demandera toujours ce qu'aurait fait Jésus à ma place et il le fera. » Toujours la question, quand je dois faire quelque chose, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place et le faire. Mais donc, au long du développement, et quand il rentre dans des détails très précis, sur toutes les qualités, les vertus, comme on disait à l'époque, qu'il faut pratiquer si on est un chrétien, il dit, les membres de l'association, d'abord, ils tâcheront de vivre ces qualités, de les faire leur. Ensuite, ils tâcheront de les faire aimer par tous ceux qui sont autour d'eux. Et ils tâcheront aussi de les faire aimer par les infidèles. Parce que Il y a des valeurs humaines qui sont des valeurs chrétiennes que tout le monde peut apprécier. Il dit, il faut que petit à petit les gens s'en imprègnent. Mais c'est une espèce de confiance que les gens sont capables de voir le beau qu'il peut y avoir là-dedans et capables de s'en imprégner. Je crois que ça, c'est tout à fait le Charles de Foucault de la dernière période. Faire confiance que les gens peuvent être aussi capables de désirer le bien et alors le vivre et laisser l'Esprit Saint peut-être faire son boulot de les attirer. C'est mon dernier point que j'appellerais vivre, vivre et porter l'évangile de la tendresse, ce que Charles de Foucault a appelé l'apostolat de la bonté. Au fond, je pense que vous en faites tous l'expérience, en tout cas moi je vis dans un quartier HLM classique, mais donc pas très facile pour les gens, la vie est dure, c'est un monde de compétition, malheur aux petits et aux faibles, beaucoup de gens vivent dans la solitude même s'ils sont toutes les 5 minutes avec leur téléphone portable. Beaucoup de gens aussi qui ont échoué professionnellement, socialement, qui se retrouvent seuls, des échecs affectifs, des choses comme ça. Des gens qui, à force d'avoir été dévalorisés, sont dévalorisés, se dévalorisent eux-mêmes, qui vivent mal leurs limites, etc. Je pense on fait tous l'expérience, on connaît tous des gens comme ça. Il me semble qu'une des lumières que Charles de Foucault nous apporte, c'est que notre manière d'être au monde doit être la manière d'être de porteur de tendresse. Ça me frappe, plus je lis des textes de Charles de Foucault, la place du vocabulaire de la tendresse chez lui. On mentionnait ce matin le fait qu'ils ont été orphelins très jeunes et qu'ils ont été adoptés par le grand-père. Il parle toujours de son grand-père, de la tendresse de son grand-père. Il y a des textes aux militaires, c'est très drôle. Je ne sais pas s'il y a des militaires parmi vous ou des gens qui ont des militaires dans leur famille, mais moi j'avais tous les réflexes qu'on peut avoir d'imaginer des légionnaires en mission coloniale. On imagine des durs à cuire, sans cœur, etc., etc. Quand Charles de Foucault s'est installé à Béni Abbès, 2 ans après, il y a eu une attaque pas très loin. Il se précipite tout de suite pour être près des militaires qui ont été blessés, enterrer ceux qui sont morts, etc. Et il a gardé une correspondance avec certains. C'est extraordinaire de voir la tendresse de cet ancien officier qui parle à des hommes de troupes, une espèce de tendresse incroyable. Parce que lui, il sait que ces militaires, c'est pas des brutes épaisses, mais c'est des hommes avec un cœur, qui sont blessés, loin de leur famille, qui pensent à leurs proches, etc., etc. Et tout son souci, c'est de communiquer à travers la tendresse. Je trouve ça fantastique. Et c'est quelque chose qu'on trouve du début à la fin de sa vie. Par exemple, dans cette lettre à Joseph Ours, se faire tout à tous, pour les donner tous à Jésus, en ayant avec tous bonté et affection fraternelle, en rendant tous les services possibles, en prenant un contact affectueux, en étant un frère tendre pour tous, pour amener petit à petit les âmes à Jésus en pratiquant la douceur de Jésus. Il a une autre méditation, par exemple, qui est écrite quand il était à Nazareth, et on voit qu'il a déjà c'est une méditation sur la résurrection de la fille de Jaïr, et alors ça se termine par donner-lui à manger. Alors, il commente, soyons délicats sans fin dans notre charité. Ayons cette tendre délicatesse qui entre dans les détails et qui sait, avec des riens, mettre tant de baume dans les cœurs. Donnez-lui à manger, dit Jésus. Entrons de même avec ceux qui sont près de nous dans les petits détails. Soulageons par les plus minutieuses attentions. Ayons pour ceux que Dieu met près de nous ces tendres, délicates, petites attentions qu'auraient entre eux des frères très tendres et des mères très tendres pour leurs enfants. Comptez le nombre de fois le mot tendre dans ce paragraphe, c'est assez impressionnant. Une tendresse qui rentre dans les détails, donc je vous dis, il n'en a pas seulement parlé, il l'a pratiqué, je vous ai parlé de ce contact avec les militaires, mais par exemple les Touaregs, quand il sera mort, quand on leur demande, et alors comment il était le marabout, là, ils disent, une des choses qu'ils ont dites, c'est, il ne nous faisait jamais attendre. Donc recevoir la personne tout de suite. Un des conseils qu'ils donnent aux militaires quand ils reçoivent des gens du coin, mettez des bancs pour qu'ils puissent s'asseoir. Donc ce genre d'attention qui rentre dans les détails. J'ai pas le texte, mais je vais lire un autre. On la trouve tout à fait jusqu'au bout, cette idée de la tendresse. Il y a toujours à faire par l'exemple, la bonté, la prière, en se liant de relations plus étroites avec les âmes tièdes ou éloignées de la foi, pour les amener peu à peu, à force de patience, de douceur, de bonté, par influence de la vertu plus que par des conseils, à une vie plus chrétienne ou à la foi. En rentrant en relation amicale avec des personnes tout à fait contraires à la religion, pour faire par la bonté tomber leurs préventions et les amener inclusivement à Dieu, peut-être pas exclusivement ou explicitement, mais inclusivement. Il faut étendre nos relations avec les bons chrétiens pour nous soutenir dans l'amour ardent de Dieu et avec les non-pratiquants en cherchant à avoir avec eux non des rapports mondains, mais des rapports d'affection cordiale, les amenant à avoir pour nous estime et confiance et de là à se réconcilier avec notre foi. C'est une lettre de 1914, il a un autre texte de 1916 où il dit avec les musulmans, il faut devenir l'ami fidèle et sûr à qui on va quand on a besoin. Ça tombe bien, mon frère au fond de la salle m'a fait des grands signes pour dire que sa patience commence à être à bout. Et ça, j'arrive juste à la conclusion. On n'a pas synchronisé, on n'a pas répété, je vous assure. Hein. Donc, si je résume un peu ce que j'ai dit, et après je vous raconterai une histoire pour finir. Donc, pour moi, le message de Charles de Foucault, c'est un message résolument tourné vers le monde, avec un regard positif, décentré de nous-mêmes, pour y porter l'évangile de l'amour, en particulier aux plus fragiles et aux plus éloignés. Voilà, porter l'évangile de l'amour. Et porter l'évangile de l'amour dans une vraie attitude de dialogue. Dialogue, ça veut dire bannir l'esprit militant, faire route avec l'autre avec patience. Ça veut dire reconnaître la part de vérité féconde, la part de vérité qui peut porter du fruit que toute personne porte en elle. Dialogue, ça veut dire entrer dans une relation de réciprocité où j'accepte de recevoir de l'autre. Avec la confiance que Dieu parle au cœur de l'homme et que l'homme et la femme est capable de réponses droites. Regarde, porter un regard positif sur l'homme aussi. Et dans cette attitude, dans cette manière-là, avoir une attitude qui fait parler l'évangile plus que des mots qui parlent de l'évangile. C'est la vie évangélique qui parle de l'évangile. Et vivre l'évangile de la tendresse avec tous, et surtout avec les plus blessés et les plus petits, quand on en rencontre. Je crois que ça donne un magnifique portrait du chrétien dans le monde, à la Charles de Foucault, et peut-être qu'on pourrait le résumer dans cette phrase de Charles, surtout voir en tout humain un frère et ou une sœur. J'imagine qu'en m'écoutant, vous avez certainement pensé, parce que j'y ai pensé souvent en écrivant ce texte au pape François, je trouve que ça rejoint beaucoup de choses du pape François. Non pas, il était déjà jésuite et puis on le trouve franciscain, non pas pour le mettre foucauldien, mais tout simplement pour nous réjouir qu'au fond, on boit à la même source de l'évangile, quoi. Et que l'évangile nous pousse à ça, je trouve. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, je vais terminer en racontant une petite histoire qui m'est arrivée et qui est un peu une illustration un peu de toutes ces choses-là. Je la raconte pas pour... c'est une belle histoire pour moi, elle me touche. Mais aussi parce que je pense qu'on a tous des histoires comme ça. Peut-être dans les petites 10 minutes que vous ferez en petit groupe, peut-être l'un ou l'autre peut raconter. Bon, le dernier travail que j'ai fait, je travaillais comme ouvrier de nettoyage dans un supermarché. Et dans ce magasin, il y avait beaucoup de jeunes des quartiers, enfin beaucoup de jeunes des lycées qui viennent faire des stages d'apprentissage, 15 jours, 3 semaines, pour apprendre à mettre en rayon et des choses comme ça, enfin des stages pratiques de lycée. Et beaucoup, c'est des jeunes de nos quartiers, donc beaucoup des jeunes arabes, ça se voit. Et alors moi, oui, ça se voit souvent sur la tête, sur la manière de parler, malheureusement pour eux. Et donc moi, j'avais mon balai, je passais partout, quoi. Et donc chaque fois, je demande, ah, comment tu t'appelles? Ah, tu viens ici pour combien de temps? Etc. Et si le lendemain, vous revenez et que vous lui dites « Bonjour Jamal, bonjour Mohamed, moi j'étais frappé du nombre de fois où ils m'ont dit « Mais tu as retenu mon nom ?» comme une chose pour eux tellement importante. C'est rien du tout. Mais ils ont tellement intégré que tout le monde les regarde comme des Arabes, que tout le monde les rejette et des choses comme ça, que simplement quelqu'un qui reconnaît leur nom, ça les touche, quoi. Et alors du coup, évidemment, moi, ils venaient, après quand ils arrivaient tous les jours, ils venaient me dire « Bonjour », ce qu'ils ne faisaient pas avec les autres. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, et ça m'a fait penser à cette parole de l'Évangile. Le bon berger, enfin le berger, appelle chacune de ses brebis par leur nom et elles le suivent. Et je me dis, ouf, au fond, à quelle profondeur de l'humain Jésus y fait allusion quand il dit quelque chose comme ça, quoi. Quelle connaissance de l'humain il a lui-même et à quelle profondeur de l'humain il fait allusion. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette histoire, elle a une suite. Mon chef, c'était un musulman, Larsen, on est très amis. C'est un musulman pieux, pratiquant, pas du tout intégriste, mais c'est un musulman pieux qui vit sa foi. On a beaucoup, beaucoup parlé avec lui de tout, de religion, de politique, de ce homme. Et alors lui, il a repéré le manège des jeunes qui venaient me saluer, du fait que moi je saluais. Et alors un jour, il vient et il me dit « Tu fais ça pourquoi ?» Bah, je dis « On travaille ensemble, non? C'est un peu normal de mettre un peu d'humanité dans ce qu'on vit. » Il dit « Non, non. Tu fais ça parce que t'es croyant. » Ah, j'ai trouvé ça très beau que lui me dise, tu fais ça parce que c'est... Je le fais parce que je suis croyant et que ma foi, elle imprègne ma vie, j'espère. Mais lui, il l'a directement nommé comme une chose. Et le jour où je suis parti à la retraite, il m'a dit, écoute, tu vas me manquer parce que tu m'as aidé à approfondir ma foi de musulman, parce que vous avez une dimension d'humanité que nous, on n'a pas. Et moi, je lui ai dit, mais toi, tu m'as beaucoup aidé aussi à lire ce que je fais dans ma vie à la lumière de ma foi. Tout ça parce qu'on a été simplement pendant 2 ans avec le balai à la main, côte à côte, et qu'on avait le temps de discuter. Voilà, je vous remercie.
À l'école du bienheureux Charles de Foucault, 1858-1916, vous venez de suivre l'intervention du frère Marc Hayette, petit frère de Jésus à Lille, une intervention enregistrée le 24 septembre 2016 lors de la journée organisée par la fraternité séculière Charles de Foucault à l'occasion du centenaire de la mort du bienheureux Charles de Foucault.